Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, le sujet de ce jour est assez clair, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde parce que nous approchons de la fin de l'année liturgique. Vous le savez, nous autres chrétiens, nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, il y a beaucoup de religions où sans cesse on revient à la contemplation du même, c'est-à-dire du début du monde jusqu'à sa fin, et afin d'entrer dans l'éternité de Dieu, dans l'immutabilité de Dieu, et nous sommes arrivés au bout. L'année liturgique commence avec l'Avent, c'est-à-dire dans 2 semaines, et elle se termine avec la fin du monde, la contemplation du Christ-Roi. Ce qui fait que les derniers dimanches avant le Christ-Roi ont un peu tous, les 3 derniers ont un peu tous le même thème, c'est l'eschatologie, c'est la fin du monde. Voilà, il nous faut entrer dans cette contemplation nécessaire, et combien nécessaire à notre temps qui n'en sait plus grand-chose. Je vous propose de voir d'abord la remarque du Seigneur sur la question de ce qui va subsister ou pas. Il ne restera pas pierre sur pierre du temple. Et d'autre part, quelle est et en quoi consiste exactement cette fin du monde? Tout d'abord, sur quoi repose notre foi? Quel est son fondement? Puisque certains s'émerveillent en disant le temple est magnifique, il s'agit du temple de Jérusalem, il a été rebâti puisque le premier avait été détruit, et effectivement il devait être très beau, très grand, très, on en a des plans, et on s'émerveillait de sa beauté, comme si en soi c'est ça qui produisait la foi. Et le Seigneur dit ne vous mettez pas trop en joie, il va être détruit. Alors il y a 2 enseignements. D'abord, c'est une prophétie, vous le savez, il va être détruit, et en quelque sorte il était nécessaire qu'il fût détruit, ou plus exactement il ne servait plus, puisque après la venue du Christ, il n'y a plus qu'un seul sacrifice fait une fois pour toutes, c'est celui que nous célébrons ce soir, qui se rend présent, mais qui n'est pas un nouveau sacrifice, il n'y a plus le sacrifice de l'ancienne alliance, et en quelque sorte, c'est peut-être pour ça que le temple a disparu. Mais autre chose aussi est de penser alors quel est le rapport entre ma foi et le temple, puisque nous avons nous aussi bâti des temples, nous avons bâti des églises, et la nôtre est particulièrement magnifique. Eh bien, il y aurait 2 erreurs dans la conception du rapport de notre foi à l'église. La première erreur serait de croire que c'est le temple qui fait la foi, c'est-à-dire c'est les pierres, c'est... le fait qu'il soit construit, qui produit la foi. Ça, c'est la conception toute humaine qui fait qu'on ne peut pas comprendre, en fait, la réalité de ce bâtiment. Ce bâtiment ne crée pas la foi, ce bâtiment a été créé par la foi. Ce qui est premier, toujours dans l'univers, c'est l'esprit. C'est difficile pour nous à le croire, hein, parce qu'on est bien matériel, et souvent, on est plus... tenter à croire que ce qui existe vraiment, c'est ce qui est premier dans ce que je suis en train de caresser, c'est du bois. Bien non, parce que ce bois pourrait servir à faire des chaises, pourrait servir à faire un tas de bois, pourrait servir à faire des allumettes. Ce qui est premier dans ce que je suis en train de toucher, c'est la forme spirituelle que le créateur de cet embon y a mis, c'est-à-dire c'est totalement l'esprit qui est premier. Eh bien, dans le monde et dans notre Église, c'est pareil. On le voit bien dans ce débat aujourd'hui au sujet de la cathédrale Notre-Dame. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas un beau bâtiment qu'accessoirement des chrétiens pourraient utiliser pour faire des choses, dire la messe, faire quelques prières, mais que ce n'est pas ça. Notre-Dame, c'est un bâtiment qui a été créé par la foi. C'est-à-dire, c'est en raison de la foi, pour la foi, par cette foi que les murs sont montés, qu'on a décoré cette cathédrale et qu'elle a été habitée. Voilà que le monde matérialiste n'arrive pas à admettre que c'est d'abord la foi qui est première. Et le Christ, en quelque sorte, nous met en garde ici. Ce ne sont pas les ex-voto du temple qui produisent la foi, c'est la foi qui a produit les ex-voto du temple pour remercier Dieu de son existence et de son action. Mais attention, il y aurait une autre erreur parallèle, similaire. Vous savez, tout, quand il y a une erreur dans un sens, il y a souvent la même dans l'autre sens. C'est de croire que, alors, le bâtiment n'a aucune importance et que nous pourrions célébrer dans un hangar quelconque, parce que ça serait pas important. Alors ça arrive que des chrétiens célèbrent dans des hangars, ça arrive que des chrétiens célèbrent dans des catacombes, ça arrive que des chrétiens soient obligés de se cacher pour célébrer la messe, malheureusement, et parfois célèbrent dans des endroits incongrus. Mais ce n'est pas indifférent. C'est-à-dire que ce lieu est consacré à Dieu. Nous sommes tout humains, c'est-à-dire un composé matériel et spirituel. Et nous avons besoin de cette matière pour prier Dieu. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous réunir dans un lieu saint, de nous consacrer nous-mêmes dans ce lieu consacré à Dieu. Il a son importance, son décor, sa beauté, la gloire qui est ici dit quelque chose de la gloire de Dieu que nous verrons un jour. Bien sûr, avec une pâle figure, mais elle en est quand même, par analogie, quelque chose de cette connaissance, de cette gloire. Oui, les lieux que nous fréquentons ne sont pas indifférents. L'église où vous avez été baptisé n'est pas indifférente à votre foi. Nous sommes de quelque part. Nous sommes de la terre. Nous sommes d'un endroit. Et c'est important. Vous pouvez faire l'analogie avec toute chose matérielle. Bien entendu, ce qui est admirable, si vous visitez le Louvre, pour prendre un bien qui n'est pas spirituel mais intellectuel, ce qui est admirable est bien sûr... c'est l'art de tous ceux qui ont produit des œuvres magnifiques que l'on met au Louvre, et puis aussi la construction elle-même. Bien entendu, ce n'est pas la construction ni les tableaux qui ont produit les artistes, mais les artistes ont produit ces tableaux et ils ont donc une valeur. Ils ont mis quelque chose de leur être dedans. Il nous faut donc vénérer nos églises, les entretenir, les habiter, afin que soit honoré Dieu dans la construction qui a été faite de ce temple. Voilà ce que l'on peut dire du rapport de notre foi au temple. La foi est première, la foi est essentielle, c'est la foi qui restera éternellement. Mais ce n'est pas parce que nous savons que nos maisons tomberont en ruine que nous ne les habitons pas et nous ne les décorons pas. Ce n'est pas parce que nous savons que, y compris, cette magnifique église tombera un jour en ruine que nous ne voulons pas la décorer, la maintenir et la garder. Voilà pour ce premier point du rapport de notre foi au temple dans lequel nous prions. Alors voyons, puisque c'est à cette occasion que le Seigneur leur dit, il ne va rien rester, tout sera détruit. Ça s'appelle la fin du monde, ça s'appelle l'eschatologie. Alors c'est important que nous ayons un discours sur l'eschatologie parce que le monde s'inquiète, et il s'inquiète de plus en plus, ou plutôt il s'inquiète de nouveau. Je dis de nouveau parce que pendant des siècles, tout le monde savait que le monde avait eu un début et que donc il aurait une fin. Et puis il s'est trouvé, pour faire un peu rapide, qu'à la fin du 19e siècle, devant la montée des sciences humaines et même des sciences expérimentales, eh bien, on se soit orienté vers l'idée que le monde était éternel, qu'il portait en lui-même sa vie, sa grâce, son éternité. Alors pendant, on va dire, une petite centaine d'années, il y a eu comme un divorce entre la foi et la raison, entre les scientifiques qui disaient « Bon, mais c'est très gentil votre histoire, mais c'est pas vrai, hein, le monde est éternel, il va se régénérer, etc. » Et puis les croyants qui continuaient de dire « Non, mais nous on croit qu'il y a eu un début, la création, il y aura une fin, c'est la fin du monde. » Alors il se trouve que depuis une quarantaine d'années maintenant, les scientifiques, ce n'est pas encore passé dans les manuels scolaires, mais ça va prendre un certain temps encore. Mais en tout cas, si vous lisez les rapports scientifiques, des congrès d'astrologie, des congrès même de mathématiques, c'est assez intéressant, puisque la mathématique a un rapport d'explication réel. Eh bien, ce m'a expliqué récemment quelqu'un qui a Medal Fields, je lui fais confiance, je ne connais pas plus. Eh bien, nous avons de nouveau une congruence de pensée entre nous et la science. C'est-à-dire que la science, de nouveau, se dit « Mais ce monde n'est pas éternel. » Alors se pose immédiatement la question, c'est « Qu'est-ce qui va se passer ?» Et voilà pourquoi ce monde est si angoissé. Nous sommes dans un monde hyper angoissé de la mort et de la faim. C'est la montée, nous allons tous mourir, il y aura un virus, il n'y aura plus à manger, il y aura, je ne sais pas quoi, la terre va exploser, la terre va s'assécher, il n'y aura plus d'eau potable. Enfin, vous avez, etc. Il y a des problèmes réels qu'il faut... et tenter d'embrasser, évidemment. Mais il y a une espèce de catastrophisme qui revient terriblement, tout simplement parce que nous savons de nouveau que tout n'est pas éternel. Alors il nous appartient à nous d'agir comme citoyen, bien entendu, pour préserver notre monde, pour essayer de le vivre au mieux. Mais il nous appartient surtout, nous les chrétiens, de dire que la fin du monde, c'est le retour à Dieu. C'est ce que nous allons fêter la semaine prochaine dans le Christ roi. Alors que nous fêtons la fin du monde, on pourrait penser que les chrétiens vont se couvrir de noir, pleurer, etc. C'est l'inverse. Nous allons fêter la fin du monde dans une couleur joyeuse, le blanc, l'or, et nous allons fêter le Christ roi de l'univers qui va se réapproprier tout le monde. Voyez-vous ? Voilà ce que nous avons à dire au monde. Le Seigneur donne deux conseils. Deux conseils. Le premier, soyez sur vos gardes. Et le deuxième, ne soyez pas terrifiés. Et voilà ce qu'il faut que nous disions au monde. D'abord, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Comment peut-on être sur nos gardes ? En veillant et en priant. C'est l'attitude traditionnelle des chrétiens qui gardent et prient. Veiller, c'est-à-dire surveiller ce qui se passe. Nous sommes attentifs à tous les mouvements du monde. Nous sommes attentifs car nous sommes dans un combat, un enfantement qui n'est pas anodin. Et dans ce combat, il n'y a pas que du bien. C'est un combat du bien au mal. Voilà pourquoi il nous faut veiller, surveiller. Épiscope, évêque, ça vient de là. C'est le surveillant, c'est celui qui veille à ce que le peuple garde la foi. C'est son rôle. Voilà pourquoi il nous faut veiller à garder la foi, combattre, rester attentif, veiller nuit et jour, discerner le bien du mal, condamner le mal, suivre le bien. C'est notre travail. C'est ce que dit saint Paul, il nous faut travailler sans cesse, sans nous lasser, car pour vivre, il faut travailler. L'autre conseil, c'est de prier. C'est de prier, c'est-à-dire d'entrer dans cette connaissance intérieure du Seigneur, dans ce dialogue qui nous fait entrer dans le dessein de Dieu, pour que nous comprenions ce qui doit se passer, comment doit se passer d'abord ma vie et celle du monde. Voilà l'attitude du chrétien attentif et serein qui attend et qui coopère à la venue de la fin du monde. Tous les jours, nous nous en rapprochons. Cette fin, c'est à la fois ma mort et à la fois la fin de ce monde. Pour moi, ma mort sera ma petite fin à moi, ma fin du monde à moi, le moment où je quitterai ce monde, cette temporalité, cet espace, pour être plongé dans l'éternité de Dieu. Voilà pourquoi je contemple avec joie et une indicible action de grâce cette vie qui m'est donnée pour rejoindre Dieu, le temps qui m'est donné pour faire le bien et me positionner, coopérer, décider d'aller vers Dieu. Cette fin coïncidera un jour avec la fin de ce monde où Dieu se réappropriera l'univers, non pas sous une forme fantasmatique, mais sous une forme réelle. Voilà pourquoi ce monde est important, voilà pourquoi nos églises, nos familles, nos lieux de vie, notre pays, tout revêt cette importance qu'elle est un moyen pour aller vers Dieu. C'est le premier conseil du Seigneur, soyez sur vos gardes. Le deuxième semble assez dérisoire, c'est ne soyez pas terrifiés. Ça paraît étonnant puisque le Seigneur vient de nous expliquer qu'il y aura des tremblements de terre, des famines, des guerres, qu'on nous mettra en accusation, que certains mourront. C'est la vie des chrétiens depuis le début de la proclamation évangélique. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, l'UNESCO a sorti un rapport il y a peu, établissant que le groupe le plus persécuté dans le monde, ce sont les chrétiens. Alors voilà, il ne faut pas nous inquiéter, il faut être certain que le Seigneur nous inspirera une défense juste, des mots justes, une attitude juste, si nous nous mettons à son écoute. Et il y a une question à laquelle il ne faut pas répondre, ou plutôt il y a une mauvaise question. C'est celle que posent les apôtres, mais qui est bien naturelle. Puisqu'ils viennent raconter que voilà, tout ça va finir, que le temple va s'écrouler, que la fin du monde est proche. Alors la question c'est pour quand ? Quand cela va-t-il arriver ? Et vous avez remarqué que le Seigneur ne répond pas à la question. À la question « quand cela va-t-il arriver ?», il dit « il y aura des guerres, il y aura des... etc. On vous livrera, mais ça ne sera pas encore la fin. Hein. Il faut que tout survienne. » C'est-à-dire, et nous le savons bien, nous qui lisons l'Évangile, plusieurs fois le Seigneur va y revenir. Il ne vous appartient pas de connaître le temps que le Seigneur a fixé dans sa sagesse. Il nous appartient de vivre, de travailler, d'attendre la venue du Christ, sa venue en gloire. Il ne nous appartient pas de connaître le temps et l'heure. De toute façon, tous ceux qui ont, en général, se sont inquiétés de cette question, ont apporté de mauvaises réponses. Je le dis de temps en temps, je le redis, mais je n'ai que 51 ans, j'ai déjà connu une dizaine de fins du monde. Celle dont il me souvient surtout, c'était les Témoins de Jéhovah, en 1992, je crois. C'est la fin du monde, Témoins de Jéhovah. Bon, il y a eu à l'an 2000, il y en a eu 2-3 en même temps. Et voilà, je crois que la prochaine, je ne sais plus qui l'a prédit, mais c'est 2027. Vous avez encore un petit peu de temps pour vous préparer. Eh bien, en quelque sorte, cette question ne nous intéresse pas de savoir quand, car nous nous savons en Dieu. Nous nous savons portés en Dieu, et à tel point que nous avons l'audace de fêter la fin du monde la semaine prochaine. Et comme je l'ai dit aux servantes de l'Assemblée et aux servantes de messe tout à l'heure, si d'aventure la fin du monde ne survenait pas la semaine prochaine, nous recommencerions à attendre la venue du Seigneur dans sa naissance. Voilà l'attitude profonde des chrétiens, cette paisibilité, ce calme et cette foi qui ne nous épargnera pas les terreurs des catastrophes, c'est-à-dire des bouleversements que ce monde certainement attend. Mais voilà en tout cas la manière dont nous voulons le vivre, dont nous voulons vivre tout simplement avec Dieu, afin qu'advienne jusqu'à ma mort, jusqu'à la fin du monde, le Christ dans sa réalisation immédiate, afin que nous puissions le voir vraiment face à face, et il vient, les temps sont proches où le Christ va se révéler.